Chapitre 14. Il n'était que midi et demi. Elle avait donc tout le temps de s'installer dans le bois de Magnolia, puisqu'elle avait fixé le rendez-vous à 1 heure seulement. Mais en combinant son projet, elle avait compté qu'ils auraient le terrible soleil auquel elle était habituée depuis son arrivée à Cordes, et voilà qu'au contraire, le temps était couvert et que les gens qui devaient, selon ses prévisions, se mettre à l'abri au frais, pouvaient très bien rester dehors. On était au commencement de septembre et il ne faisait plus cette série de jours ensoleillés pendant lesquels la campagne est à peu près déserte à midi. Comment n'avait-elle pas pensé à cela? Comment n'avait-elle pas pensé aussi qu'il pourrait pleuvoir? C'était maintenant que les difficultés de son plan lui apparaissaient. Ne serait-il donc venu que pour qu'ils se vissent de loin? Maintenant, les joies de la matinée ne lui suffisaient plus. Ils avaient tant de choses à se dire. Elle avait hâté le pas, bien qu'elle fût certaine d'être en avance. Mais, en arrivant sous les magnolias, elle l'aperçut dans la prairie, à la place même qu'elle lui avait indiquée, dessinant, ou au moins ayant l'air de dessiner. Trois gamins, les mains derrière le dos, l'entouraient, le regardant. À un mouvement qu'il fit, levant son album en l'air, elle comprit qu'il l'avait vue, et que, dès lors, elle n'avait plus qu'à attendre que les gamins fussent partis. Mais s'en irait-il? Parviendrait-il à s'en débarrasser? La question était irritante et d'autant plus exaspérante qu'elle n'apercevait personne aux alentours et que, sans ses enfants, il pourrait déjà être près d'elle. Elle s'était assise, non sur le banc placé sous les arbres, mais au bord même de la rivière, sur le mur qui était de plein pied avec le jardin dont il soutenait les terres, et elle avait pris l'attitude de quelqu'un qui rêve en regardant couler l'eau. Mais par-dessous les grands bords de son chapeau de paille, elle suivait très bien ce qui se passait dans la prairie en face. Ce fut ainsi qu'elle vit bientôt Ernest se lever et s'en aller. Il n'était pas difficile de deviner qu'il désespérait de se débarrasser de ses gamins et qu'il ne quittait la place que pour revenir aussitôt qu'il les aurait perdus. Certainement, la tactique était bonne. Mais pendant ce temps, personne ne surviendrait-il dans le jardin ou bien aux environs? Elle était dans un état d'impatience fiévreuse, d'exaltation, qui ne lui permettait pas de raisonner. Les secondes qui s'écoulaient lui duraient autant que des heures. Le bruit des feuilles la faisait trembler. Enfin, elle le vit apparaître. Il était seul. Il descendit dans le lit de la rivière et, suivant son bord à sec, il fut près d'elle. Elle s'était levée. « Geneviève, chère Geneviève !»« Enfin !» Et, séparés depuis 3 mois, préparés à se voir, ils restèrent interdits pendant quelques instants, ne trouvant pas de paroles pour exprimer les élans tumultueux qui leur montaient du cœur. « Comme je vous retrouve belle, dit-il, comme le soleil, comme la vie de la campagne vous ont velouté. Vous avez un éclat de carnation, une douceur. »« C'est la joie, dit-elle. Mon Dieu, que je suis heureuse de vous voir, comme j'attendais ce moment. » « Enfin, vous voilà, c'est vous !» Et pendant quelques secondes, elle le regarda les yeux dans les yeux. Ce n'était plus comme le matin, à l'église ou dans la rue. Une courte distance les séparait, la hauteur du mur, au pied duquel il se tenait, le visage levé vers elle, tandis qu'elle se baissait vers lui. Il s'en fallait de peu qu'ils ne pussent se donner la main. Mais l'imprudence qu'il commettait à s'entretenir ainsi en plein jour, dans ce lieu découvert, exposée à toutes les surprises, était déjà assez grande sans l'aggraver encore. Tout à coup, elle secoua la tête. « Vous avez à me parler, dit-elle. Que dois-je faire ? Ce n'est pas pour cela que je suis venue. Pourtant ! Est-ce donc pour cela que vous m'avez appelée ? Pour vous voir. Et c'est pour vous voir, c'est pour vous regarder, c'est pour vous entendre, c'est pour être près de vous que je suis accourue aussitôt que vous m'avez écrit que je pouvais venir. Pour vous voir, c'est vrai, car je mourrais d'être séparée de vous, mais aussi pour vous demander de me guider. Hâtons-nous, on peut arriver, vous interrompre, vous forcer à partir. Mais que voulez-vous que je vous dise quand je ne sais rien, ni de votre tante, ni des gens qui l'entourent? Et puis, d'ailleurs, n'ai-je pas pleine confiance en vous? « Depuis notre séparation, j'ai souffert, cruellement souffert de cette séparation. Mais je n'ai jamais eu une heure, une minute d'inquiétude. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes belle et séduisante que je vous ai aimée, chère Geneviève. Parce que vous êtes au-dessus des autres femmes, par votre talent et votre intelligence, si extraordinaire dans une jeune fille de votre âge, mais aussi parce que vous avez une âme honnête, un cœur bon, tendre et courageux. Oh, que je suis heureuse que vous me jugiez ainsi! C'est parce que j'ai deviné, dans la charmante petite fille que vous étiez enfant, la femme que vous êtes maintenant que l'amour est né dans mon cœur. Je ne pense pas à vous sans penser en même temps aux qualités de ce cœur, aux vertus de cette âme, et le doute ne m'effleure pas. Je ne pouvais pas prévoir combien de temps nous serions séparés, car ni vos lettres, que votre mère m'a toutes lues, ni ce que j'ai pu apprendre par votre père, ne me renseignaient à ce sujet. Mais j'étais bien certain que, si long que fût ce temps, je vous retrouverais ce que vous étiez à votre départ. « Votre femme !» interrompit-elle avec un doux sourire. Oui, ma petite Geneviève, ma femme, c'est pour cela que ce que m'a appris votre lettre ne m'a pas tourmentée. N'était-il pas tout naturel que votre tante, qui maintenant a pu vous apprécier, veuille vous marier? Et n'est-il pas tout naturel aussi que ceux qui vous approchent veuillent vous épouser? Oui, ma lettre, dit-elle, parlons-en de ma lettre. Ah, si j'avais pu en recevoir une de vous, me disant ce que vous faisiez, car celles de maman sont presque muettes sur vous. Ce qui me tourmentait, ce n'était pas de me dire « m'aime-t-il toujours ?» c'était de savoir où en était votre comédie et votre drame. On va les jouer d'ici 15 jours. Châtelard à l'Odéon, Sylvie au gymnase. La chose est sûre maintenant, les répétitions sont avancées, et il n'a fallu rien moins que votre lettre pour me les faire manquer aujourd'hui, et elles m'obligent à repartir aujourd'hui même. Si j'avais su !» Heureusement, vous ne saviez pas. Vous m'avez appelé, je suis venu. Comme je vais trembler maintenant! Dans quelle angoisse je vais passer ces 15 jours! J'aurais tant voulu être là, partager votre émotion, votre triomphe, car ce sera un triomphe. Oh, un triomphe! Les comédiens ne sont pas contents. Ils n'y connaissent rien, c'est votre originalité qui les déroute. Vous n'aurez pas refait ce que font les autres. Mais ce sera un triomphe, votre talent s'imposera. N'allez-vous pas douter de vous? Et puis, il faut que ce soit plus qu'un succès, il faut que ce soit un vrai triomphe. Ce n'est plus mon père seulement que nous avons à décider pour notre mariage, c'est ma tante aussi. Songez qu'elle veut me donner sa fortune, toute sa fortune, et me la donner en dot. Quelle affaire! Elle a déjà mis la guerre entre votre père, votre frère et votre belle-sœur, qui est dans un état d'exaspération folle contre vous. Est-ce ma faute? Est-ce que j'y tiens, moi, à cette fortune qui est un nouvel obstacle entre nous? C'est comme mon nom. Qu'est-ce que cela me fait de m'appeler Geneviève de Mussidan et de descendre des Puy-Laurence? J'aimerais bien mieux n'avoir ni héritage, ni nom, et me marier tout de suite. Est-ce qu'il y a pour moi autre chose dans la vie que notre amour? Votre triomphe décidera mon père et aussi ma tante, sans doute. Mais si vous saviez comme elle est pieuse et comme il sera difficile de lui faire accepter un homme de théâtre, il faudra que votre gloire emporte tout. Aussi, je vous en prie, le lendemain du jour où vous aurez été joué, que ce soit vous-même qui m'annonciez votre succès. Revenez, que je reçoive dans mes yeux l'éclat de votre triomphe. Je vous le promets. Jusque-là, ne craignez rien. J'ai dit au comte de Javerlac que je ne serai jamais sa femme. S'il revient, je le lui dirai encore, je le lui dirai jusqu'à ce qu'il comprenne. Maintenant, partez, vous m'avez mis dans le cœur la force, le courage et la joie. » Et elle fit un effort pour sourire, bien qu'il y eût des larmes dans ses yeux. « Mais nous n'avons rien dit !» s'écria-t-il. « Nous nous sommes vus, n'est-ce pas tout ?» Eh bien, laissez-moi vous regarder encore et vous emporter dans ce cadre de verdure qui me fera un souvenir tout parfumé de ces belles fleurs de magnolia. » Elle se mit à genoux et, se penchant en avant, elle lui tendit la main, qu'il prit et qu'il baisa passionnément sans vouloir la lâcher. « je vous en prie, » dit-elle. À ce moment même, elle crut entendre un bruit de pas sur le sable. « On vient !» dit-elle à voix basse. « Partez !» Et, se relevant vivement, elle fit quelques pas en arrière, tandis qu'il s'éloignait en rasant le mur. C'était Adélaïde qui arrivait. Elle vint jusqu'au mur, mais Faré était déjà assez loin pour qu'elle ne pût le voir que de dos et pour qu'il lui fût impossible de dire s'il était venu devant le jardin de Mademoiselle de Puylaurens ou s'il était resté devant la prairie. Alors, se retournant, Adélaïde examina Geneviève avec une curiosité dans laquelle il y avait autant d'étonnement que de défiance.